Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus si nombreux à la rencontre de l'invité d'honneur de ces rencontres de l'imaginaire de Sèvres, Pierre Bordage, qui est avec nous cet après-midi. On va essayer de parler avec lui de son travail, de son œuvre, des résonances, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est le titre de son dernier roman, qu'il peut y avoir dans son travail avec l'actualité contemporaine. Vous verrez, je pense qu'on va avoir des passerelles intéressantes et en même temps malheureusement assez dramatiques. Et puis, on va s'intéresser aussi un petit peu à l'homme et à l'écrivain. Et moi, j'ai envie de commencer par ça. J'ai lu cet été, je crois, dans Libération, un long portrait de Pierre Bordage, où on découvre un petit peu comment tu travailles déjà. Et moi, j'ai été très surpris. Tu es un homme de contraintes.
Contraintes. La contrainte que je me fixe, ce sont les horaires. Puisque j'ai la chance d'être auteur, parce que c'est une chance, et de pouvoir vivre de ma plume, je consacre l'essentiel de mon temps à l'écriture, ce qui veut dire des journées entières d'écriture. Même si j'ai un peu baissé de rythme ce temps-ci, mais globalement, je travaillais de 8h du matin jusqu'à 17h30, 18h, tous les jours, ce qui fait qu'il y avait une production qui s'installait. Donc ça, c'est ma première contrainte. En réalité, c'est parce que j'ai peur de moi-même et de ma paresse. Et que je me garantis contre ma paresse en m'imposant des horaires, c'est-à-dire que même si je ne suis pas en forme et que j'ai envie d'aller faire un tour ailleurs, je reste à mon bureau, quitte à rester 3 heures sur une même phrase, mais je sais que ça se débloque à un moment et que donc j'aurai la réponse en ce jour. Donc voilà, cette contrainte s'applique surtout au temps passé devant mon ordinateur en train d'écrire. Sinon, je n'ai aucune contrainte. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle un scripturant, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille énormément avec l'écriture, qui pense que l'écriture structure le récit, et que donc je pars avec une idée ou je pars avec des personnages sans trop savoir où ils vont. Donc voilà. Ça, c'est l'aspect immersif de la façon dont je travaille en écriture, c'est-à-dire que c'est vraiment une immersion pour moi dans l'écriture, et c'est l'écriture qui guide ou qui structure le roman. Ce qui implique une sorte de confiance absolue entre ce qui se passe, parce qu'il m'arrive de perdre cette confiance, c'est-à-dire je ne sais plus très bien pourquoi je suis parti. En gros, je suis rentré dans la mine, j'ai creusé, puis j'ai perdu la lumière de l'entrée, et je n'ai pas la lumière de la sortie, et que donc je suis suspendu dans l'obscurité avec mon propre roman, et parfois je perds confiance. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas où je vais, enfin. Et c'est un peu la panique. Et quand ma femme était de ce monde, je descendais, je lui disais. Là, je suis complètement largué, je suis en train de faire de la merde, ça va pas du tout. Elle me disait, tu prends mon travail. Je disais, ouais, d'accord. Et donc, ma crise était passée. Maintenant, il faut que j'arrive à me raisonner moi-même pour continuer jusqu'au bout d'un roman.
Ce qui est étonnant quand tu dis ça et quand on te lit, nous lecteurs, c'est qu'on a justement l'impression que tes histoires, elles sont très structurées, qu'il y a un vrai plan, qu'il y a une vraie construction, que rien n'est fait totalement au hasard, que prenons le cas des Dames Blanches, on y reviendra plus en détail, mais parlons un peu de la construction. On est sur chaque chapitre a un personnage qui lui sert de titre et qui est finalement au cœur du récit de ce chapitre précis. Tout s'agence de manière très précise. Et quand tu nous expliques que non, c'était pas du tout, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'agencement comme ça, on a presque du mal à te croire.
Ben, vous ne croyez pas. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le roman, alors je me considère plus comme un accoucheur de livres, comme un créateur de livres, c'est-à-dire que le roman me traverse, passe à travers moi. Mon boulot, c'est de le recueillir par l'écriture. Et donc, je suis obligé de faire confiance à l'écriture pour structurer le roman. En gros, quand je dis j'ai un projet à un éditeur, et qu'il me dit c'est quoi le projet, ça tient en 2 lignes et demie. Parce que je suis incapable d'en dire plus, puis je déteste l'exercice du synopsis ou du pitch qui est de raconter à peu près le résumé de l'histoire, parce que j'ai l'impression d'être complètement sec. Donc ça ne m'intéresse pas, parce qu'il n'y a pas de chair, du coup, c'est juste un squelette. Et ça me paraît inintéressant au possible. Bon, je me suis rendu compte que j'avais ce fonctionnement-là au bout de 3 romans écrits, et que je me suis dit, mais attends, il y a mon nom sur les contrats, c'est moi qui touche l'argent, donc j'ai une responsabilité, donc c'est à moi de m'imposer ma volonté au personnage et au roman, et j'ai essayé de faire ça. Et donc c'était un Roel, c'était le 3e Roel, je crois, et j'ai fait un plan. J'ai dit, ouais, je fais un plan. je vais imposer une direction à mes personnages, je vais imposer aussi un caractère à mes personnages, comme font beaucoup d'auteurs, vous savez, ils font des fiches de personnages avec les caractères, etc. Et j'ai tué le roman en 50 pages. Au bout de 50 pages, ça ne m'intéressait absolument plus. Il était devenu une sorte de branche morte, desséchée, qui n'avait plus aucun intérêt, parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'être aussi surpris par ce qui se passe pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un roman. Il faut que je sois moi-même mon premier lecteur, on a le premier surpris. Et parfois, c'est pas confortable parce que vous laissez vos personnages dans une sorte de situation inextricable. Un peu comme, je ne sais plus qui, avait renfermé quelqu'un dans une malle et l'avait acheté dans le fond de la Seine à Paris. Et disant, démerdez-vous maintenant. Et on se dit, comment on va faire le personnage pour s'en sortir? Et ça m'angoissait au début. Je ne savais pas du tout. Et je me disais, c'est bloqué. Et le lendemain, comme par miracle, le fait de reprendre l'écriture, la situation se dénouait. Donc c'est juste une question de fonctionnement. Je sais que j'ai travaillé avec Alain Grousset, par exemple, qui travaille de façon purement structurante. Lui, s'il ne sait pas exactement où il va, il est paniqué. Et comme il devait écrire un roman qui se passait après le mien dans le même univers, il était très angoissé. Parce qu'il me demandait, maintenant que tes personnages ont fait ça, tu sais ce qu'ils vont faire? Il dit, ben non. Il dit, ah, mais c'est pas possible, moi je viens derrière toi, comment je vais faire? Il dit, t'attends, parce que moi aussi j'attends. Il dit, bah, c'est pas possible de bosser avec des structures. Il dit, tu sais que moi j'ai le petit-fils, hein, il faut que tes personnages ils conçoivent à un moment, hein, sinon ça va pas pouvoir se faire. Je disais, ben oui, mais ça viendra. Et effectivement, ils ont conçu, donc c'était bien.
Vous voyez qu'on a quand même quelqu'un qui nous emmène dans des univers qui paraissent comme ça extrêmement élaborés et qui naissent petit à petit. Ce qui est très fascinant, c'est que tu as quand même souvent profusion de personnages dans tes romans. Donc quand tu nous racontes ça, encore, ça a encore de quoi surprendre parce que... comment tu t'y retrouves dans tous ces...
Très mal.
Toutes ces distributions.
Ce que je fais, c'est que au début, je ne le faisais pas, puis j'ai commis quelques erreurs. J'ai une sorte de cahier au classeur à côté de moi, où je note le nom des personnages, parce qu'ils pouvaient changer de nom sans que je me rende compte, sans que l'éditeur ne se rende compte. Et j'ai eu deux romans publiés avec les personnages qui changent de nom. Et évidemment, il y a toujours un lecteur qui s'en rend compte, et qui écrit... Souvent, il est belge, d'ailleurs. Et il écrit en disant « Vous sauriez expliquer pourquoi ce personnage change de nom, hein, s'il vous plaît ?» Et je vérifie. « Ah ben oui, il a changé de nom. » Bon, donc, je me suis astreint une certaine rigueur qui est de noter le nom du personnage et d'essayer de faire une ligne chronologique, puisque quand vous avez, par exemple, 6 ou 7 personnages que vous menez de front, ben, il faut toujours faire des raccords temporels qui ne sont pas du tout évidents. Il faut aussi avoir une cohérence chronologique que je m'efforce de trouver. Et que je lisse une fois le roman terminé, je m'attache à ça, c'est-à-dire vraiment essayer d'avoir cette logique, cette cohérence chronologique et puis la cohérence des noms, hein, donc on est d'accord. J'ai un personnage, par exemple, qui était mort dans un chapitre et qui continuait de se battre dans un autre. Et il y a un lecteur aussi qui m'a dit, c'est un peu pas normal là, votre truc, parce qu'il est mort. Là, ah oui, on avait interverti le nom, tout simplement. On a beau passer l'éditeur à beau relire, on a l'auteur à beau relire, l'éditeur à beau relire, le correcteur à beau relire, bon, on laisse passer des choses comme ça. Mais les lecteurs sont des malins et ils repèrent toujours ce genre de choses. Et ça fait culte après.
Ça fait des belles éditions avant de dédicacer. Ouais. Pierre Bordage, on a un univers, on l'a dit, très riche, hein, qui s'intéresse à toutes les dimensions que peut proposer l'imaginaire. Aussi bien la science-fiction qui est quand même le genre de référence, hein, de prédilection.
Oui, plutôt oui.
Le fantastique, l'anticipation, un petit peu de fantasy de temps en temps, quand il y a besoin.
Ouais, j'ai pas fait encore une vraie fantasy.
L'enjeu mineur, c'est un peu fantasy.
Oui, c'est de la fantasy historique, donc il y a une sorte aussi de prétexte, hein, qui est l'histoire. Donc, c'est pas une création d'univers pur, hein, la Tolkien. Là, je suis en train de m'y atteler, là, une pure fantasy. Parce que ça m'intéresse aussi beaucoup, mais oui, j'aime tous les genres de l'imaginaire, et puis ça dépend, et puis les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. J'essaie dès qu'un genre me plaît, ou que j'ai envie d'explorer quelque chose, ben, je le fais, puis sans poser de questions.
Alors la question piège et la question bateau à la fois, pourquoi choisir justement l'imaginaire, alors que quand on regarde ce que tu nous racontes, on est finalement dans des thèmes très contemporains, très proches de nos préoccupations du quotidien.
Je vous félicite de cette question.
Je te remercie.
Je ne savais pas pourquoi au départ j'avais choisi l'imaginaire, parce que surtout on m'a dit « Quand est-ce que vous pensez écrire de vrais romans ?»
Tu auras remarqué que ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non, non. J'ai dit, mais c'est des romans, il y a des personnages, il y a des choses qui bougent et tout, qui parlent. Et pourquoi l'imaginaire, du coup? Parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était un ghetto, hein, enfin, un ghetto culturel. Étant le premier ghetto étant la science-fiction, le ghetto encore plus bas étant la fantasy, et la fantasy pour jeunesse à la fin. Bon, on est dans des ghettos, pourquoi volontairement se mettre dans un ghetto? Parce que je me suis rendu compte que l'imaginaire avait une richesse inouïe qu'on ne soupçonnait pas. Moi, je suis allé directement dans l'imaginaire parce que je me sens pas capable d'écrire autre chose. Si j'ai pas un petit décalage imaginaire quelconque, ça m'ennuie très très vite, et donc ça vient probablement de mon attrait pour les mythologies quand j'étais enfant. J'ai lu énormément de mythologies, ça me créait une sorte de vertige que j'ai voulu retrouver dans l'écriture. Et donc les genres, quand j'ai découvert la science-fiction à l'université, en première année de fac, comme quoi l'université ça sert des fois à quelque chose, l'université publique j'entends, pauvre, enfin, etc., avec des profs qui essaient des choses quand même assez étonnantes. Et du coup, quand j'ai découvert la science-fiction dans Chronique martienne de Ray Bradbury, j'ai éprouvé le même vertige que je disais que j'avais enfant quand je disais des mythologies. Donc je me suis dit, ouais, ça c'est la littérature qui me plaît parce que ça me procure cette espèce de vertige que j'ai envie de ressentir quand je lis un livre. Donc naturellement, mon premier roman s'est inscrit dans cette veine-là, qui est Les Guerres du silence, Space Opera, parce qu'il me semblait que Space Opera c'était vraiment la mythologie moderne, etc. Et après, en faisant plusieurs bouquins, je dis, mais pourquoi je fais de l'imaginaire? Quel intérêt de faire de l'imaginaire? Alors, voyons, l'imaginaire, d'abord, ça offre un magnifique voyage, enfin, un voyage qui sort de l'ordinaire, au sens des nouveaux voyages extraordinaires, Jules Verne, hein, c'est-à-dire, vous êtes sorti de votre quotidien par la lecture d'un roman imaginaire. Ensuite, paradoxalement, et là, tu dis, ça résonne énormément avec le présent, la projection dans l'espace-temps permet de mieux discerner les problèmes de fond qui traversent le présent. Vous savez, dans le présent, on est, bon, voilà, il y a des événements à Paris qui sont passés, on a le collé dessus, on est dans l'émotion, on est incapable d'avoir un recul sur ce que ça nous dit réellement de nous, de notre civilisation, etc. Et que donc, le fait de prendre un peu de recul par le saut dans l'espace-temps, ben, ça permet, du coup, de voir ce qui est en trame, ce qui est en germe dans le présent. Donc de mieux, peut-être, inviter les lecteurs ou les contemporains à une réflexion sur leur, ce qui se passe dans leur présent à eux. Regardez les deux grands exemples, évidemment, c'est les deux grands classiques, c'est le 1984 et le meilleur des mondes. Ce sont des gens qui ont anticipé plein de choses, qui ont perçu en germe dans leur présent, par exemple, la surveillance globale ou bien la biotechnologie, qui se retrouve maintenant, de fait, sur le devant de la scène, parce qu'on va se poser des questions sur la biotechnologie. Et troisièmement, et là, ça va rejoindre les mythologies. J'ai eu l'impression que cette littérature, elle était une continuation des mythologies dans le sens archétypal, c'est-à-dire que c'est une étude profonde de l'humanité dans ce qu'elle a d'intrinsèque. C'est-à-dire que ça ne dépend plus là de la période ou du moment, ce n'est plus le présent, mais c'est quelque chose d'éternel, c'est-à-dire l'éternel humain qu'on retrouve à travers ce genre, et ça permet d'étudier tout ça. Donc cette association-là, des trois, le voyage extraordinaire, la réflexion sur le présent et l'interrogation philosophique ou métaphysique, me semble être une combinaison extraordinaire qu'on retrouve très peu dans les autres formes de littérature. Maintenant, cherchez bien, vous allez avoir de la sociologie, des choses comme ça, mais avoir cette combinaison des trois éléments, c'est assez rare. C'est la science-fiction qui le donne et qui, pour ça, d'une richesse inouïe. Et c'est dommage qu'on pense que la science-fiction, c'est des robots qui combattent des extraterrestres dans l'espace avec des sables laser qui font du bruit alors qu'ils ne devraient pas en faire, mais bon, bref. C'est tout à fait autre chose, c'est une grande richesse. Évidemment, il y a des histoires de robots qui combattent des extraterrestres. Moi-même, j'ai donné dans les robots qui combattent des extraterrestres, c'est sympa aussi. Mais y a, c'est un univers extrêmement riche qui nous permet peut-être de mieux décoder notre civilisation, quoi, ce qu'on essaie de faire dans notre civilisation.
Et ben, la transition, elle est toute trouvée pour qu'on commence à parler du petit dernier, Résonance, ouais. Puisqu'on est dans un space opéra, on est dans un voyage lointain, on est dans des réflexions là encore très contemporaines, on va le voir, et aussi sur la réflexion sur l'humain à travers différents personnages, deux en particulier, qui pourtant ne vont se rencontrer, en tout cas pour de bon, que véritablement à la fin du livre. C'est une vraie...
Ça dépend de suspense.
Non, on va expliquer le suspense, il va se nicher ailleurs. Mais c'est une vraie course-poursuite qu'on a entre deux personnages qui sont, alors pour le coup, issus de mondes très différents.
Oui, alors le projet du livre, c'est une histoire d'amour. Ouais. Ça, c'est l'éternel humain, non? Une histoire d'amour à travers l'espace, avec deux êtres que tout devrait effectivement, enfin, que rien ne devrait permettre de se rencontrer, puisqu'il y a d'abord Eloïa, qui est une femme voilée, toute allusion, etc.
Si, si, mais on va y revenir à ça.
Et que personne ne doit voir sous aucun prétexte. Tout regard est interdit de porter sur elle, et il se trouve que l'autre personnage, qui est Soin, une sorte de pilote de vaisseau qui appartient au peuple Arawak, qui est aussi quelqu'un qui a une grosse réflexion sur le destin, enfin, son peuple a une sorte de vision de la destinée et de l'accord, ils appellent ça l'accord, c'est-à-dire raisonner avec sa destinée, va voir de façon accidentelle, fortuite, et il va immédiatement tomber amoureux, mais plus que tomber amoureux, c'est pressentir que cette femme est son accord. Et donc, il va se lancer à sa poursuite, et la poursuite, c'est le terrain de jeu, c'est l'espace. Donc, c'est très compliqué de partir à la poursuite de quelqu'un dans l'espace, surtout avec des vaisseaux qui font des sauts quantiques, qui ont des coordonnées. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans la technologie parce que ça ne m'intéresse pas non plus. De toute façon, je dis que ça marche comme ça, voilà. De toute façon, personne n'a réussi à démontrer que les vaisseaux marchaient d'une façon ou d'une autre. Donc, j'essaie surtout pas d'expliquer de façon scientifique comment on peut fonctionner un vaisseau. Et donc il va se lancer à sa poursuite. Évidemment, il y a plein d'aventures qui fait que la rencontre va être très très compliquée à se manifester. Et puis on va découvrir de pourquoi Eloïa est voilée, pourquoi son peuple l'escorte vers une planète lointaine. C'est quoi ces gens-là qui s'appellent les Salahamites, avec des croyances très très fortes. Et bon, c'est toute cette histoire-là. Évidemment, oui, après, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect tout ça.
Alors on va y venir, mais moi je voudrais qu'on s'intéresse à Soin et aux Arawak d'abord. Je trouve qu'ils ont une vision des choses, comme tu l'as décrit, qui est très intéressante parce que d'abord elle est très individuelle,
Oui.
Puisque c'est chacun finalement doit trouver son accord, doit trouver le fil, avec véritablement un ressenti, c'est-à-dire que quand il aperçoit au début du roman Eloïa, ça lui fait vraiment comme un déclic, hein.
Oui,
Il y a vraiment
oui.
quelque chose qui se manifeste en lui.
Oui. La réflexion sur les Arawak, c'est une réflexion que je me pose en permanence, qui est celle du libre arbitre. Finalement, pour les Arawak, il faut entrer en résonance, d'où le titre, avec leur destinée. Donc, c'est découvrir leur destinée et être dans leur destinée. Et j'ai l'impression de vivre parfois la même chose, c'est-à-dire que quand je me retourne en arrière dans ma vie, je me dis, quelle est ma part de libre arbitre dans ce qui m'est arrivé? Pourquoi, par exemple, est-ce que j'ai écrit Les Galles du Silence en 1985 et pourquoi ça n'a pas été publié en 1993? Pourquoi les portes sont fermées à un moment et qu'elles restaient fermées, j'avais beau cogner à toutes les portes, ça ne s'ouvrait pas, et pourquoi elles sont ouvertes? Et j'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas. J'ai l'impression qu'il y a plein d'épisodes de ma vie qui ne m'appartenaient pas. Et que donc, plutôt que d'essayer de provoquer les événements ou d'accompagner les événements, justement, c'est accompagner les événements. Plutôt que de s'opposer aux événements, de souffrir des événements qui ne se passent ou ne se passent pas, c'est accompagner le mouvement. Et c'est un peu ce que font les Ewa. Ils accompagnent le mouvement, c'est-à-dire s'il leur arrive ça, ils l'accompagnent. Ils ne s'opposent pas au mouvement, ils n'accélèrent pas le mouvement, ils se contentent de l'accompagner. Et c'est ça pour eux l'accord, finalement. C'est quelque chose d'harmonieux qui coule de source.
Mais Soin, il est déjà un cas particulier dans son peuple, parce qu'il a,
Oui.
il a déjà pris des décisions qui ne sont pas forcément dans le cadre de l'accord, mais qui en font presque un paria dans son peuple.
Oui, bah après, oui, on raconte un peu sa jeunesse tumultueuse et tout ça, donc il a été plus ou moins banni, etc. Et donc, effectivement, il est en dehors de cette recherche-là, mais il la retrouve par le regard porté sur Eloïa. Le regard sur Eloïa, je pense que le regard féminin sur un homme est extrêmement important, croyez-le, mesdames. C'est le regard mythologique de la femme qui pousse l'homme. Enfin, pour moi, la femme est l'arc et l'homme est la flèche. Et s'il n'y a pas un arc qui est très, très puissant, l'homme ne va pas très très loin non plus. Donc, c'est ce regard d'Eloïa qui le pousse et qui le ramène sur le chemin de l'accord et de la résonance.
Il en est persuadé, c'est l'accord, hein, quand il croise Eloïa, ce qui va l'entraîner à prendre des risques,
Ouais.
à braver des dangers. Qu'il a parfois provoqué lui-même, pour au final dire. C'est aussi quelque chose, là on est dans quelque chose que nous, au quotidien, ben voilà, on n'est pas toujours forcément prêt à faire.
Ben, je pense que ça fait partie de la résonance, quoi. C'est-à-dire, l'accord, et ça vaut aussi pour moi, enfin, je me pose des questions, c'est-à-dire que si on m'invite à faire quelque chose, si, alors, parce que là, c'est compliqué, hein, la résonance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'adresse directement à l'être, sans qu'il y ait d'ego là-dedans. La plupart des décisions qu'on prend, elles sont motivées par l'ego. C'est-à-dire, on va faire telle chose parce que il y a une sorte d'ambition ou on fait ça par intérêt, par matérialisme. Donc il y a une sorte de calcul dans les décisions qu'on prend. Si c'est une décision qui vient de l'âme, alors ça paraît, c'est un concept qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. Donc, qui vient de la conscience, de l'intérieur de l'être pur, alors il y a une sorte d'évidence. Et j'en ai fait expérience récemment parce que j'ai projeté de déménager à toute vitesse. Et je me suis demandé si cette décision était juste. Mais la façon dont les choses se sont organisées, avec une extraordinaire souplesse, me montrait que c'était juste. Il y avait un accompagnement du mouvement. Et donc, Soin, on parlait bien de Soin. Hein. Ouais. Soin retrouve cet accompagnement du mouvement, cette espèce de fluidité qui fait qu'il est dans le monde juste et que ça fait que ça crée une résonance. C'est un peu le fait des erreurs que c'est moi. Quoi, en
mais est-ce qu'on est dans le fatus ou
ben, alors, c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est de la fatalité, quoi ? Est-ce que c'est... est-ce que c'est de la résignation ? Alors, pour moi, c'est des questions un peu métaphysiques. Hein. Je n'ai pas de réponse, je fais des expériences. Je ne vais imposer mes idées à personne, parce que de toute façon, je ne peux pas. C'est juste que moi, je me sers de moi-même comme laboratoire et je vois comment ça fonctionne. Quoi. Est-ce que c'est la facilité ? Je ne pense pas que ce soit la fatalité. Je pense que c'est l'acceptation est un mouvement, donc c'est un accompagnement. Alors que la fatalité, ça voudrait dire une soumission, ce qui est pour moi tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme partir à la recherche de ce qu'on est vraiment, de ce qui nous meut vraiment. Ce qui est une recherche plus spirituelle que matérielle. Enfin, bon, vous avez compris que j'ai plus une pensée spiritualiste, d'essence spirituelle, que d'essence matérielle, parce que la pensée matérielle, pour moi, elle est finie. Elle conduit à la finitude, elle conduit à la matière. Donc, elle ne m'intéresse plus parce que j'ai l'impression qu'elle devient matière aussi. Et pour moi, les religions, par exemple, dont on pourrait parler, c'est une captation de la spiritualité matérielle qui conduit à une sorte d'organisation, de construction matérielle qui, sous forme de dogmes, les murs, ce sont des dogmes, et du coup, ça empêche l'être humain de rentrer dans sa propre résonance. Je pense que la spiritualité, c'est celle qui nous amène à être ce qu'on est vraiment soi-même, au plus profond de soi. Donc elle n'est, évidemment, elle n'est transmissible à personne. On ne peut imposer quoi que ce soit à personne, puisque chaque expérience, chaque... c'est de la science-fiction, hein, on est d'accord, on parle. je suis désolé, mais... c'est entrer dans sa propre résonance, c'est ça qui est important. Et le dogme est brise, enfin... Ça vient certainement des années séminaires, parce que bon, j'avais des aspirations mystiques dès que j'étais tout petit, et donc je suis retourné au séminaire. Bon, je suis vendéen, donc voilà, séminaire. Et 4 ans ont suffi au prêtre pour briser vraiment mon aspiration spirituelle. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, ils veulent faire de moi un petit soldat de la foi, et moi, ça ne m'intéresse pas, enfin, ça heurte ma propre sensibilité intérieure, enfin, ma sensibilité, et donc je ne peux pas fonctionner avec. Donc ça m'a amené à réfléchir sur cette différence entre spiritualité, aspiration profonde, et puis religion, qui est la vision superficielle des choses. Et j'ai retrouvé cette espèce d'aspiration au cours d'un voyage en Inde où j'ai respiré dans l'air de ce pays. Bon, après, c'est inexplicable. C'est un pays qui casse énormément les repères et les codes et tout. Et donc, si on n'accepte pas en fout le camp au bout de 10 minutes, si on accepte, alors on est obligatoirement changé parce qu'on est obligé de s'emparer d'autres façons de voir et que toutes nos façons de penser sont obsolètes, ne servent pas grand-chose dans ce pays-là. Et donc ce choc-là, ça m'a refait prendre conscience de cette aspiration spirituelle, et depuis j'ai cherché beaucoup, et aussi par les écrits, parce que l'écriture c'est une sorte de tamis, c'est pour ça que je bosse aussi beaucoup en immersion, parce que je pense que l'écriture est un tamis très fin qui va chercher très profond dans chaque écrivain et qui ramène des choses qu'il n'a pas forcément envie de voir mais qui lui disent beaucoup sur lui-même, quoi. Parce que des fois on ramène des trucs, on dit ben c'est pas où, hein, c'est bizarre, c'est moi qui écris ça, Et puis il y a mon fils qui lit et qui me dit « Oui, c'est vrai que t'es un peu psychopathe, mon
gars. » Et on en parlait tout à l'heure dans les Dames Blanches, ça va être un...
Et que donc, effectivement, ça ramène des choses. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça on ne peut pas tricher avec l'écriture. Enfin, de la façon dont je travaille, je pense que je ne peux pas tricher avec l'écriture, parce que c'est elle qui traverse. Quoi. C'est elle qui m'emmène dans les labyrinthes, c'est elle qui me ramène des choses que je n'ai pas forcément envie de voir, comme je disais, et qui ramène aussi des choses pour le lecteur, pour l'humanité, enfin... Ça fait peut-être un peu prétentieux de dire. Donc, si je change d'un degré la perception du lecteur sur le monde, je suis déjà très content. D'un millième de degré, on va dire.
Tu as posé Soïn à la soumission. La soumission, c'est ce qu'on promet à Eloïa, en tout cas, c'est ce qu'on voudrait bien qu'elle vive. On l'a dit, c'est une femme voilée que seuls sont promis.
Doit avoir de regarder, on ne sait pas qui est le promis d'ailleurs, on est en suspens sur le promis.
Et elle est victime, y compris au sein de sa famille, parce que c'est, on voit qu'il y a une relation familiale très particulière autour d'Eloïa, où finalement c'est la religion qui a vraiment pris le pas sur toute forme de relation sociale.
Oui, j'ai voulu illustrer peut-être le monde patriarcal. Je pense que la Bible, l'Ancien Testament, est un univers, une vision patriarcale des choses, y compris dans la définition de Dieu, qui est un patriarche, jaloux, coléreux, etc., etc. Et que, donc j'ai voulu reproduire ce schéma finalement dans une religion de l'espace, avec cette vision patriarcale des choses, avec une soumission des femmes, parce que je pense finalement que la Bible... Ce patriarcat biblique a un but, finalement. Et le but, c'est quoi? C'est contrôler les sexualités. Pourquoi? Parce que je pense que, finalement, c'est le passage du monde nomade au monde sédentaire. Et la sédentarité, ça veut dire des frontières, des clôtures et de la transmission. Ce qui veut dire que si je transmets un bien à mon enfant, j'aimerais bien être sûr que ce soit mon enfant. Or, ça, seule une femme peut être vraiment sûre que c'est son enfant. Un mec, il ne le sait jamais, quoi. Et c'est sa hantise, sa peur. Et que donc, une façon de contrôler ça, c'est d'imposer aux femmes, par la force, une sorte de
abstinence.
Pas abstinence non plus, mais une sorte de fidélité... obligatoire par le biais de la religion. Et donc, Eloïa s'est poussé à l'extrême avec Eloïa, puisqu'il y a un promis, et que ce promis, dont on ne sait pas qui c'est, c'est vraiment poussé à l'extrême, parce que bon, je ne vous dis pas qui est le promis.
Mais il y a justement le paradoxe, c'est que cette femme, Eloïa, elle est à la fois la plus méprisée et la plus prisée de tous, parce qu'elle a une valeur.
Oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, elle a une extraordinaire valeur pour son peuple, parce qu'elle est promise à un être qui est annoncé dans les prophéties, dans le livre de ce peuple, Salamite. Et à la fois, elle est la paria, puisque personne ne doit la voir, et qu'elle est... Mais ce que j'ai bien aimé avec le personnage d'Eloïa, ça, c'est plaisant aussi d'être auteur, d'avoir des personnages masculins, féminins, et d'essayer d'explorer tous ces univers-là. Parce qu'un auteur est un principe assez neutre, finalement, parce que parfois on pourrait se demander si on est légitime de parler d'une femme, alors oui, je dis oui. Il n'y a pas de raison, en tant qu'auteur. Et j'ai bien aimé son évolution, sa progression, parce que Eloïa, pour qu'elle soit belle devant son promis, on lui offre une machine qui lui permet de résister à la fois de façon sur le plan musculaire et osseux au voyage dans l'espace qui peuvent le perturber sur ce plan-là. Et cette machine, c'est une machine à exercice. Il y a un assistant virtuel qui s'appelle Galp, et où, grâce à cette machine, elle va découvrir d'autres dimensions de l'espace et du temps. Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais... Après, tout ça, on verra que tout ça n'est pas gratuit, n'est pas hasardeux. Enfin, il y a une sorte de plan. Il y a là un plan, mais c'est pas le mien. C'est le plan de l'autre.
Il y a, malgré cette importance du patriarcat, on a parlé d'Eloïa, il y a d'autres personnages féminins dans Résonance qui sont toujours important, c'est eux qui font, c'est elles, pardon, plutôt, qui font avancer l'action. Et, oui, par exemple. Pas seulement, il y a aussi, alors, je sais pas, je veux dire, hôtesse de l'air, c'est peut-être pas tout à fait le terme adéquat, mais la rencontre que fait Soïne au début du roman, cette femme qui essaie de le séduire et qui finalement, dans un premier temps, va très mal vivre son rejet, mais en même temps, va le comprendre, va l'accepter.
Ben oui, encore une fois, l'acceptation, et c'est ce qui fait avancer les choses finalement dans le roman. C'est-à-dire qu'effectivement, elle aurait pu se fâcher complètement contre Soïne parce que c'est
lui qui la repousse.
Comment ?
Et lui nuire.
Et lui nuire, et elle finit par lui donner des informations capitales pour poursuivre son voyage. Et puis d'autres femmes, comme les Chaouches, qui sont des femmes aux yeux entièrement noirs, qui peuvent pleurer des larmes de sang quand elles sont perturbées, et qui ont des pouvoirs télépathiques, qui sont utilisées comme espionnes pour le compte de gens de gouvernement, ou bien des pirates spatiaux, enfin, de ce qu'on veut. Tous ces personnages, ça m'a... J'adore les personnages, quoi. Enfin, vraiment, je vis dans les personnages. Les personnages, je suis dans eux. Ce sont mes vaisseaux à moi qui me permettent de découvrir l'univers. Et c'est un bonheur d'écrivain d'être avec des personnages, de décrire des personnages, de partager les souffrances, les bonheurs, les émotions des personnages. Enfin, bon.
Et puis, ben, le thème, tu en as déjà parlé, mais donc, c'est cet intégrisme religieux qui se manifeste de manière extrêmement violente, qui va aussi quand même connaître quelques difficultés à s'imposer et à imposer sa volonté au travers du voyage. C'est un thème qui est récurrent chez toi, cette crainte de l'intégrisme religieux.
Ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que la religion, l'intégrisme religieux, c'est la négation même de l'humanité, dans le sens où l'humanité, elle est multiple, tous les humains sont des notes différentes dans un jardin, et la religion essaie de faire une sorte de grosse caisse pour tout le monde la même, quoi. Et je pense que c'est un drame, ça, pour l'humanité. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que quand les prophètes arrivent en général, bon, par exemple, vous avez une vague de prophètes du 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, qui sont... Lao Tse, Bouddha, etc., qui amènent des choses différentes, c'est-à-dire qu'ils amènent des enseignements paradoxaux pour éviter justement le dogmatisme. En fait, Bouddha, c'est une réaction peut-être à la civilisation védique qui est très ritualisée et qui donc enferme les gens dans un système de croyances et de rites. Et Bouddha arrive et il dit voilà, non, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lao Tse est très paradoxal parce qu'il oblige sans arrêt les gens à ne pas se reposer sur des dogmes, justement. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est lourd est léger, enfin, tout est paradoxal en permanence. Moi, j'adore les enseignements paradoxaux parce qu'ils ne permettent pas, justement, de se reposer sur des systèmes de pensée tout faits. Et la deuxième génération, ce sont les disciples. Et ceux-là, ils sont à craindre parce qu'ils n'expérimentent pas, donc ils... compense le monde d'expérimentation par une sorte d'intellectualisation des choses en disant « il faut faire comme ça, il faut faire comme il a dit le monsieur-là ». Et donc « il faut faire » fait qu'on ne comprend pas, enfin on n'expérimente pas et que ça devient des commandements et on commence à structurer la chose en religion et du coup on oublie complètement l'origine qui est une origine libératrice. Je pense que les prophètes sont là pour libérer l'humanité, les grands prophètes. Le Christ, c'est la même chose. Le Christ, c'est une réaction contre l'Ancien Testament en disant toutes ces histoires-là, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est avoir une relation directe avec le Père. Lui, il appelle le Père, c'est Dieu. Mais la génération d'après, c'est les disciples, Saint Paul et autres. Et là, ça commence à structurer en disant, par exemple, Saint Paul voulait que les femmes se voilent, hein, savoir ça dans les épîtres. Etc., pour essayer de capter cette aspiration libre et l'enfermer dans quelque chose, comme si... Il y a un philosophe que je révère beaucoup qui s'appelle Krishnamurti, je ne sais pas si les gens le connaissent ici, et qui dit que la pensée crée du temps, ce qui veut dire que la pensée a tendance à reproduire toujours le même mécanisme. C'est de la pensée, c'est le mental. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans l'humanité, c'est-à-dire bon, les événements de Paris, tout ça, on s'aperçoit que dans l'humanité, il y a toujours eu ces choses-là, toujours eu, et on n'en a toujours pas retenu la leçon. C'est parce que nous sommes dans le système de pensée qui crée du temps, et donc les mêmes mécanismes en permanence. Nous n'avons jamais des choses une vision neuve, puisque nous avons une sorte de conditionnement qui fait que nous reproduisons les mécanismes en permanence. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, dans l'histoire des kamikazes à Paris, là, c'est plutôt les mécanismes qui ont poussé ça, et nos mécanismes de réaction, nous, qui m'intéressent. C'est pas tellement le fait, parce que le fait, on le connaît depuis l'autre des temps. On sait ça. On sait que des gens peuvent tuer d'autres gens. Mais comment on arrive là, c'est ça qui est intéressant. Mais je dois pousser la réflexion plus loin que le simple fait émotionnel qui est « ce sont des méchants, nous sommes des gentils, pourquoi ils nous attaquent, nous, les gentils ?» Il y a autre chose derrière. Ce sont des miroirs, c'est ça qui m'intéresse.
On s'est attaché à ces grands aspects du roman Résonance. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un vrai roman d'aventure où on ne s'ennuie pas une seconde, ça bouge sans arrêt.
Je vous renvoie à nouveau au premier point qui est « Le voyage extraordinaire », c'est-à-dire effectivement... on ne va pas faire ça de façon ennuyeuse en plus. Déjà que c'est suffisamment compliqué comme ça. Donc, déjà, le fait du voyage, de l'aventure, du récit, c'est quelque chose qui, évidemment, est indispensable pour moi.
Donc voilà.
La plupart, je ne sais pas, moi, ma mythologie, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, pour moi, c'est un modèle de récit. J'ai l'impression que j'ai jamais fait mieux, je ne ferai jamais mieux. Le schéma narratif, il est là et posé par ce vieil Homère. Et le vieil Homère, c'est mon maître, quoi. Je suis dans son sillon, modestement, parce que le sillon qu'il a tracé, il est énorme. Et c'est un schéma qu'on peut appliquer à énormément de romans, quoi. Et donc, je sais que je ne crée pas grand-chose, je n'invente pas grand-chose, mais tant mieux. Simplement, je trace le sillon qui a déjà été creusé par plein de gens. Sauf que là, bon, ça s'appelle la science-fiction, parce que la science est apparue à la fin du 19e, à la révolution industrielle, et que... Ça a décalé un peu la perception des choses, c'est-à-dire qu'on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers, quoique, non, je ne dis pas ça sur le plan astrophysique, mais je dis ça sur le plan de la perception subjective des choses. Nous sommes tous au centre de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que moi je vous vois, vous me voyez, on n'a pas la même vision, déjà, aucun de nous. Là, si monsieur là, il regarde à gauche, eh ben, il a une vision, et s'il regarde à droite, il a une vision, et puis vous avez une autre vision, on n'a jamais la même vision des choses. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est la perception subjective. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, la pensée matérialiste me désespère un peu, parce qu'elle est, pour moi, elle est déjà morte, quoi. C'est-à-dire que c'est seule donne de l'intérêt la pensée subjective. C'est aussi la résonance, la pensée subjective.
Alors revenons sur notre bonne vieille terre.
Où je vais avec quoi.
Avec les Dames Blanches. Roman très très sombre.
Les Dames Blanches.
Alors je l'ai peut-être lu aussi dans un contexte un peu particulier, parce qu'effectivement c'était juste au moment... Des attentats de Paris, mais tout de même, on est quand même dans un univers, dans une planète pleine de doutes.
La Terre, hein, c'est la Terre.
Oui, oui. Pleine d'inquiétudes, pleine de peurs. Et on a cette apparition soudaine, alors vous voyez sur la couverture, si vous n'avez pas lu le livre, de ces espèces de sphères blanches. À l'échelle, pour vous dire, je crois que la première, quand on la rencontre, elle fait une cinquantaine de mètres de circonférence, à peu près, de diamètre. Hein. Donc c'est gigantesque. Hein. Et on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi elles sont apparues, on ne sait pas exactement ce qu'elles viennent faire là, on ne sait rien. Quoi. Mais elles sont là.
Oui. Une idée issue d'un cerveau malade, on est bien d'accord. Alors, pourquoi les Dames Blanches? C'est une bonne question. Parce que je voulais créer l'illusion d'un danger. C'est-à-dire quelque chose qui n'est inexplicable, indestructible, inamovible, mais qui a une particularité qui attire les enfants de moins de 4 ans, les capture et ne les rend pas. Ce qui cause un certain nombre de problèmes. Surtout à une copine qui est en train de lire, mais t'es malade de me passer des bouquins comme ça. Elle a deux enfants en bas âge. Et je dis, mais ils ont passé 4 ans. S'ils ont passé 4 ans, c'est bon. En tout cas, en dessous, c'est du danger. L'inconnu crée la peur. La peur crée des réactions étranges et complètement irrationnelles. On se demande, à juste titre, comment est-il possible que des gens acceptent de se faire exploser dans des marchés ou sur des lieux publics, quel est le mécanisme qui a poussé ces gens à faire ça? La question que je pose dans le livre, c'est quel conditionnement on a besoin, nous, pour se faire exploser, pour faire exploser les enfants. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à faire ça? Qu'est-ce qui pourrait nous conduire à une telle monstruosité, qui nous apparaît comme une monstruosité?
Parce qu'il faut le préciser, le seul moyen qu'on ait trouvé d'interférer sur ces boules blanches, je ne vais même pas dire les détruire ou les attaquer, c'est de barder les enfants de 4 ans, de moins de 4 ans d'explosifs et de les faire sauter quand ils ont été
capturés par la loi d'Isaac. Ce qui veut dire quoi, la loi d'Isaac, la loi du sacrifice? C'est-à-dire qu'on oblige, au début on fait ça avec des orphelins, on se dit qu'on n'a pas trop de problèmes. Et ensuite, c'est assez cruel, mais...
Quand je dis que c'est sombre, hein. J'étais prévenu, non.
Et après, on dit à chaque famille, vous devez fournir, parce que évidemment, les bulles se multiplient. Elles ont une particularité, une autre particularité, c'est qu'elles perturbent les ondes électromagnétiques, elles empêchent tout développement de réseaux informatiques ou Internet, et donc entraînent une certaine forme de régression. Donc l'humanité se structure pour essayer de détruire ces bulles blanches, donc elle continue de capturer des enfants, on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'elles en font. Et évidemment la seule solution qu'on ait trouvée, c'est d'envoyer des enfants, cette capacité ou cette aptitude qu'elles ont à capturer des enfants, mais d'envoyer des enfants bardés d'explosifs pour exploser de l'intérieur. Ce qui les perturbe un peu les bulles, qui les fait changer de couleur un moment, donc diminuer de volume, mais elles repartent de plus belle. Elles réintègrent leur volume initial et leur couleur initiale, et donc on est obligé de recommencer, donc on augmente les explosifs, donc on envoie de plus en plus d'enfants, donc on oblige les familles à fournir un enfant. Ce qui, d'un seul coup, pose la relation de la filiation, c'est-à-dire dans une fratrie, lequel enfant on va choisir. Et c'est obligatoire, il y a des milices qui font le tour des familles pour récupérer les enfants. Donc ce sont des questions sur la monstruosité, elle est potentielle partout. C'est-à-dire que si on pense que seuls les intégristes musulmans djihadistes sont capables de s'exposer, je pense que c'est faux. Je pense qu'on a tous la capacité de le faire. C'est une question qu'il nous pose à nous. C'est quel mécanisme il faut pour ça? Et ben, le roman est une démonstration du mécanisme qui impose des gens, aux gens de faire exposer leurs enfants et qui alors crée d'autres problèmes. C'est-à-dire cet enfant qui va être promis, j'ai choisi cet enfant qui va être promis à la loi d'Isaac, hein, la loi du sacrifice, vous connaissez l'histoire d'Isaac dans la Bible, je suppose. Quel enfant je veux choisir dans la fratrie, j'ai choisi un enfant, donc je ne vais pas l'aimer. Alors, parce que du coup, je ne vais pas m'attacher à lui, parce que je sais qu'avant mes 4 ans, il va m'être arraché et envoyé dans une dame blanche. Et est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment sacrifier un enfant aussi sur le plan affectif? Et là, on va avoir des personnages qui s'apercevront que non, on ne peut pas le faire. Et que cet enfant qu'on... auquel on ne veut pas s'attacher, ben on s'y attache de plus en plus fort, justement. Et que donc la seule façon d'échapper à ce destin-là, c'est peut-être de prendre la fuite, c'est de s'opposer à ce qui se passe. C'est toutes ces questions qui sont posées dans le roman, ce qui donne son aspect sombre. Mais l'aspect sombre, il est, je pense, uniquement dû au fait que l'humanité a peur, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans ces dames blanches, elle ne sait pas ce que veulent faire ces dames blanches. Elle a l'impression que c'est une lutte d'appropriation, enfin c'est une invasion extraterrestre en quelque sorte pour récupérer la planète Terre. Mais voilà, quelle est la réalité des choses devant cette absence de réponse? C'est la peur, la panique et le n'importe quoi.
Il y a un côté très wellsien dans le début du livre. On a un peu l'impression d'être dans la guerre des mondes, mais de manière un petit peu différente. Puisqu'on n'est pas des tripodes qui tirent sur tout ce qui bouge, mais on est avec ces dames blanches et la momie. Pourtant, on a cette même sensation à la fois d'inconnu, d'imaginer que forcément ça vient d'ailleurs, et en même temps, on a très rapidement cette réaction d'agressivité.
Mais oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que l'inconnu et la peur créent l'agressivité, sauf quelques personnages un peu éclairés dont j'ai un ufologue malien, ce qui est une rareté, hein. J'en connais pas personnellement, mais qui s'appelle Basile, et qui va essayer d'appréhender le phénomène sous un angle différent, et va d'ailleurs convertir la jeune journaliste Camille, qui évidemment est au départ pour le fait d'utiliser des orphelins pour se les faire exploser dans les dames blanches, et qui va changer d'avis, parce qu'elle a elle-même des enfants, etc. Et ça va être leur démarche pour essayer de comprendre différemment ce phénomène de dame blanche, c'est-à-dire pas par l'agressivité, mais par la compréhension. Mais bon, voilà, les dames blanches sont vraiment des énigmes dans le sens où elles ne communiquent rien non plus. Et voilà, je ne vous dis pas la fin, on se tient gardant le mystère ou pas, mais voilà.
Non, il faut garder que je lire. Il y a quand même une particularité, c'est que c'est un roman qui se déroule sur une cinquantaine d'années à peu près.
Oui, parce que je voulais illustrer le propos avec plusieurs générations. Donc on voit les générations qui évoluent, les enfants qui ont échappé eux-mêmes au sacrifice et qui font des enfants, qui vont devoir aussi choisir un des enfants pour le sacrifice. Oui, c'est intéressant de voir comment ça peut évoluer sur cette cinquantaine d'années. Et de voir comment la société globale, du coup on n'a plus de guerre de religion, on n'a plus rien, c'est, tout le monde est contre ces dames blanches, et comment ça se structure, et comment on peut retrouver des ambiances dignes de la milice des années 40, enfin, ce genre de choses. Quoi.
C'est une des questions du roman d'ailleurs, c'est que d'emblée, on a l'impression qu'il y a ce postulat de départ que les dames blanches sont un danger, sont une agression. On a tendance, nous, lecteurs, à être un petit peu d'accord, parce qu'on est influencé par l'enlèvement des enfants.
Oui, bah, c'est le côté émotionnel fort. Oui.
Sauf que, évidemment, on va évoluer au fur et à mesure, parce que nous, on va avoir des informations supplémentaires, on va avoir des éléments différents, on va avoir d'autres choses. On n'en sait pas forcément beaucoup plus sur ces dames blanches. Ceux sur qui on en sait plus, ce sont les êtres humains. Et on se rend compte que, alors que les dames blanches ne bougent pas, ne font rien, ne sont pas forcément, si ce n'est à part se développer et être en croissance, elles ne sont pas spécialement plus menaçantes. Et pourtant, l'humanité, elle, les solutions qu'elle trouve, elles sont dans la violence,
oui.
dans la douleur, dans la guerre parfois.
Oui,
il est parmi nous le danger.
Il est évident, ben oui. Et comment ? Il est évident que les dames blanches sont juste un miroir. Ce sont des choses posées comme ça. Bon, elles capturent les enfants quand même, mais sans violence. Hein. C'est juste les enfants qui sont attirés, qui disparaissent dans une dame blanche sans qu'on puisse percer la membrane. Et donc c'est aussi une énigme. Comment les enfants ont pu passer alors que quand on essaie de percer avec des balles, des flèches, et puis après on essaie des explosifs, ça ne marche pas. Mais eux, les enfants, ils passent. Ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de définir les dames blanches, parce que sur une vie extraterrestre, je n'ai pas d'éléments. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça n'intéresse personne, parce que finalement, si vous racontez l'histoire d'une civilisation extraterrestre, si vous utilisez votre propre langue pour raconter une civilisation extraterrestre, vous trichez, puisque votre propre langue est entachée d'humanité. Donc elle est anthropomorphique, et que donc vous allez avoir du mal à parler d'une civilisation extraterrestre. C'est pour ça qu'on m'a offert le disque de Magma tout à l'heure, parce que Magma, le groupe, a créé une langue qui s'appelle le Kobayen, que personne ne comprend, et c'est normal. Et je veux dire, si moi je veux parler d'une civilisation extraterrestre, je vais être obligé d'utiliser une langue extraterrestre, ou pseudo-extraterrestre, qui va complètement casser nos logiques linguistiques, et qui va être incompréhensible pour le commun des mortels. Donc évidemment qu'on parle d'humanité, toujours on parle d'humanité, dans la science-fiction encore peut-être plus que dans les autres bouquins, parce qu'on met face à des inconnus, des civilisations énigmatiques et apparemment indestructibles. Oui, c'est nos réactions à nous qui m'intéressent. Je suis un être humain, je m'adresse à des humains et je parle d'humanité et de tous les aspects de l'humanité. Donc les dames blanches, c'est un prétexte pour parler de l'humanité. C'est pas tellement elle qui nous intéresse, bien que si, quelque part, on a envie de savoir un peu ce qu'elles abritent. Mais ce qui m'intéressait à moi, c'était de parler de nous, et de nous remettre en cause nous en permanence, parce que nous sommes prompts à accuser les autres de nous faire du mal, mais nous savons très bien faire du mal aussi, ne serait-ce qu'au boulot, ne serait-ce qu'avec des petites mesquineries quotidiennes, on est tout à fait capable de faire du mal aussi, et c'est ça qui m'intéresse à moi. C'est, oui, dans quelles circonstances on est capable de faire du mal ? Est-ce que nous, l'humanité, on peut juger une autre partie de l'humanité parce que cette partie se comporte de cette façon ? Est-ce que nous, dans certaines circonstances, on ne se comporterait pas de la même façon ? Bon, c'est ça qui m'intéresse, qui m'interpelle.
C'est un roman, il fait partie de ces romans dont on parlait tout à l'heure, où il y a une multitude de personnages, hein, puisque
ouais.
Chaque chapitre déjà a un personnage dédié, et puis tout autour, même s'il y a... Camille comme fil conducteur, on va dire, et puis Elodie à un degré moindre. C'est un roman très féminin.
Oui, c'est un roman sur le ventre, du coup, c'est un roman sur la maternité. Les bulles sont des ventres, elles sont cylindriques, voilà. On les appelle les dames blanches. C'est un roman sur la maternité, c'est un roman sur le rapport à la féminité. Donc c'est un roman très féminin, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, la plupart des mecs sont alcooliques dans le bouquin.
Alors maintenant, c'est pas super sympa en général.
On me l'a reproché, bien, mais vos hommes, là, ils sont un peu. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont, obligés de. Parce que. Leur système, le système sur la violence ne fonctionne pas. Donc
ils sont impuissants.
Ils sont impuissants, exactement. Et donc, on est obligé de trouver d'autres solutions. Et je pense que c'est la part féminine de l'humain qui peut trouver ce genre de solution. Je pense que le personnage de Basile, par exemple, l'ufologue africain, est un personnage très féminin parce qu'il est entièrement basé sur la compréhension et l'intuition. On a un personnage qui s'appelle Lucho, qui est un démineur au départ, qui est là pour. Démineur égale mineur aussi, c'est-à-dire qu'ils sont aussi chargés de poser des charges explosives, et lui il se rend compte que son travail est complètement inutile, quoi, et donc il finit mal, oui je suis inutile parce que ce que je fais moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire faire exploser des gens, tout ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est un poème qui nous incite à réfléchir les dames blanches.
Tu as parlé de ta passion pour la mythologie plusieurs fois au cours de cet entretien. On la retrouve dans les Dames Blanches, puisque oui. Au fur et à mesure des générations qui passent, on voit dans l'évolution des prénoms des enfants, par exemple, oui. qu'on revient à des critères mythologiques.
Je pense que dans les moments de panique, c'est une façon aussi de se raccrocher à quelque chose qui est celle de se raccrocher aux archétypes et aux récits fondateurs de l'humanité. Donc, spontanément, effectivement, les gens retrouvent des prénoms issus, tirés de la mythologie gréco-romaine la plupart du temps. Grecque la plupart du temps, mais aussi indienne un peu par moment. Oui, parce que je pense que dans ces moments de perte de repère, la mythologie peut constituer une sorte de repère encore.
Il y a quelque chose d'un peu votif dans ces choix aussi.
Votif ?
Oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on les dédie un peu, les noms qu'on choisit, ils ne sont pas innocents. Ils sont
certes. Sur l'enfant sacrifié, souvent on lui donne un prénom de personnage sacrifié comme Pélops, le fils de Tantale, qui est servi à manger aux dieux. Ce qui. Pas sympa. Ce qui vaudra la foudre d'ailleurs de Zeus à Tantale, qui sera condamné à, je sais pas, devant un banquier en permanence sans pouvoir manger quoi que ce soit. Donc, y a cette espèce de volonté aussi de définir par le prénom une fonction qui va être celle du sacrifice, par exemple, ou celle de l'héroïsme, comme Jason ou d'autres personnages comme ça.
Ces questions, on l'a dit, on retrouve là encore des thématiques qui font écho à ce que nous vivons aujourd'hui, même si c'est assez différent. Est-ce que tu dirais que c'est une dystopie, les Dames Blanches ? Ou est-ce que c'est une dystopie en gestation ?
Je ne sais pas si c'est une dystopie vraiment.
Qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ?
C'est le contraire de l'utopie. C'est un futur qui tourne mal. Personne ne raconte d'utopie. Enfin, ceux qui sont essayés sont vraiment ennuyés pour pas grand-chose, pour pas dire autre chose, parce que les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas trop, quoi. Et que c'est vrai que c'est pénible quand on commence un roman par le furteurer et sur beaucoup d'enfants, mais c'est vachement mal. Donc c'est à un moment, ça va tourner mal. Hein. L'enfant va se droguer, enfin il va se passer quelque chose de normal, parce que là, sinon, l'impression que les gens. Dans l'utopie, c'est très très difficile à raconter parce que ça devient vite inintéressant. Et en plus, c'est le bonheur pour tous de façon presque obligatoire, qui devient une sorte rapidement de totalitarisme d'ailleurs. Parce que, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on est tous différents, on a tous une musique différente, donc on n'a pas la même définition du bonheur. Et quand on veut imposer le bonheur à tous, ce qu'avait essayé de faire Robespierre, non, c'est le bonheur pour tout le monde, de cette façon-là, non, on est obligé de couper les têtes, c'est une chose qui dépasse. Donc on ratiboise, quoi. Donc, c'était quoi la question ?
Sur la dystopie. Est-ce que c'est une dystopie en
gestation ?
Dystopie
en gestation ? Non, je ne pense pas que ce soit une dystopie en gestation, parce que... je pense, mais ça m'est un peu délicat de parler de ça, parce que je n'ai pas envie de dévoiler la fin du tout, pour ceux qui m'auraient perdu. J'ai du mal à, quand j'écris un roman, pour la nouvelle c'est différent. La nouvelle, je peux très bien fermer sèchement la porte au nez du lecteur, on lui donne un coup de poing dans le ventre à la fin, parce que j'ai quelques pages pour m'exprimer, et que si je veux attirer son attention sur un problème, je suis obligé de cogner vite et fort. Bon. Alors dans la nouvelle, ça peut se terminer très mal. Dans un roman, je me vois mal inviter le lecteur à un long voyage émotionnel avec des personnages et dire à la fin, il n'y a plus d'espoir. Là, moi, je vais me jeter dans la scène de suite. Donc, il y a toujours, même si ce n'est pas toujours gai et rose, parce que c'est aussi le principe des mythologies, que finalement les héros se mettent en route puisque le monde est en disharmonie, que le rôle du héros, c'est de ramener, je vous renvoie à Joseph Campbell, le héros mythe visage, qui est un mythologue américain très très intéressant, sur lequel s'est basé Lucas pour faire sa guerre des étoiles. Hein. Il a appliqué presque point pour point la définition du héros de Joseph Campbell, qui est un jeune personnage, comme Luke Skywalker, qui va se mettre en route pour ramener un semblant d'harmonie, enfin une harmonie dans le monde qui est en train de la perdre, et qui va subir pour ça une sorte de série d'aventures initiatiques. Et donc, en général, lorsque le héros a fini ses initiations, son parcours initiatique, il a ramené quelque chose de différent dans son monde, soit une harmonie, soit quelque chose qui était perdu, soit une réunion comme Ulysse entre l'homme et la femme, c'est une sorte de réunion des deux pôles, yin-yang, etc. Et donc pour le roman, pour moi, je pense aussi que c'est un parcours initiatique au bout de laquelle il doit y avoir quelque chose de changé. Si après, à la fin du roman de 800 pages, je dis au lecteur, foutu, il n'y a plus d'espoir, ben j'aurais une responsabilité quand même assez énorme sur le fait qu'il y a un taux de suicide encore plus important.
Oui, mais on retrouve quand même, alors sans dévoiler, mais c'est, la question du libre arbitre, elle est quand même là aussi très présente dans Les Dames Blanches.
Je pense qu'elle est présente dans tous mes romans finalement, parce que pourquoi un personnage part dans cette direction et pas dans cette autre direction, c'est parce qu'il n'y a pas le choix quasiment. C'est un chemin qui est comme imposé. Mais j'ai un peu de mal avec ces notions-là parce que j'ai l'impression que ça fait, comme tu parlais du destin tout à l'heure, ou de la fatalité, que ça fait fatalité, mais ça ne l'est pas pour moi. Mais après, chacun sa définition des choses, mais voilà, quand on s'oppose à son propre destin, bing, on se prend des coups. Et on se dit, ah, la vie est injuste. Ouais.
Bah, le personnage de Camille, elle fait quand même le choix à un moment de tout changer finalement quand même.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'on puisse pas tout changer à un moment, parce que peut-être qu'elle était dans le faux au départ, peut-être qu'elle était loin d'elle-même au départ, parce que dans l'apparence, dans le carriérisme, dans plein de choses comme ça, et que donc les événements font que à un moment on recherche ce qu'on est vraiment pour simplement, ce que disait le Bouddha, hein, simplement ne pas souffrir, c'est-à-dire sinon on souffre en permanence parce qu'on est comme opposé à soi-même. C'est un peu délicat comme notion, mais c'est ce qui est beaucoup travaillé dans les livres. Peut-être le regard d'Eloïa sur Soïn dans Résonance fait que lui va changer les choses parce qu'il y a besoin d'un déclic. Tu as parlé de déclic tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Il y a un déclic. Ou bien la rencontre avec quelqu'un qui va faire prendre conscience que oui, on n'est pas sur le bon chemin, parce qu'on est mal dans sa peau, mal dans sa vie, et que il convient à ce moment-là de changer quelque chose, peut-être. Voilà, donc c'est être à l'écoute finalement de ce que. Je suis persuadé que l'univers, enfin voilà, si j'avais une notion scientifique de l'univers, ça fait rire tout le monde, enfin c'est tous les scientifiques d'ailleurs. Pour moi, l'univers est un langage. Voilà. C'est pas de la matière, c'est un langage, et j'ai l'impression que cet univers nous parle en permanence, mais que nous ne savons pas forcément l'écouter, l'entendre, et que. Entendre l'univers, c'est aller vers soi-même. Et je pense que l'univers, je vais reprendre le mot résonance, entre résonance avec nous-mêmes, il nous envoie ce qui nous renvoie ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. J'explique comme ça, après on est obligé d'y croire à tout ça, à l'astrologie, tous ces trucs-là, mais je pense à cette relation très subjective des anciens avec l'univers, c'est-à-dire ils étaient toujours en recherche de langage que tant de nous signifier l'univers, et que le monde aristotélicien, qui est lui un monde d'analyse, c'est-à-dire de séparation de plus en plus des éléments, c'est-à-dire pour analyser les éléments indépendamment des uns des autres, fait perdre de vue la globalité, et la globalité, c'est ça qui m'intéresse finalement.
Alors on arrive au terme de cet entretien. L'œuvre de Pierre Bordage est extrêmement riche, on l'a effleuré au cours de 7 heures à travers deux des derniers romans qu'il a publiés.
Vous pouvez aller évidemment continuer la discussion avec lui jusqu'à tout à l'heure et pourquoi pas aller découvrir d'autres livres que ceux dont on a parlé. Ils sont nombreux et passionnants, qu'ils se déroulent sur notre bonne vieille terre ou alors dans des univers très différents et très éloignés. Mais vous le verrez toujours avec ces thématiques qu'on vient d'évoquer, très humanistes, très spiritualistes et toujours très intéressantes parce qu'on est à la fois dans quelque chose qui vous fait voyager mais aussi qui vous fait réfléchir. Merci beaucoup Pierre.
Merci à vous.